Merci de votre fidélité à Radio Orient. Il est tout juste midi. Le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition tournant historique en Syrie, les FDS, puissantes forces kurdes, annoncent leur dissolution et leur intégration dans l'armée nationale. Une étape majeure pour Ahmad al-Sharaa dans son objectif de réunifier le pays. Hormuz reste verrouillé, mais les négociations s'accélèrent. Oman et l'Iran travaillent à l'ouverture d'un couloir temporaire de navigation. Et puis en France, Poma panse ses plaies après la tornade. 300 maisons endommagées, une centaine potentiellement inhabitables. Sur place, les secours poursuivent sans relâche déblayage et sécurisation du village. Bonjour. Les forces démocratiques syriennes qui avaient combattu l'organisation État islamique pendant la guerre civile syrienne n'existent plus. Leur chef Mazloum Abdi en a annoncé la dissolution ce mardi, conformément à un accord conclu avec le président Ahmad al-Sharaa. Cette force, dominée par les combattants kurdes du nord-est de la Syrie, avait pourtant joué un rôle majeur ces dernières années, Inès Gilles.
Et oui, Nadia, le pouvoir syrien a négocié depuis des mois l'application d'un accord qui avait été conclu en janvier. Un accord qui prévoyait l'intégration complète des institutions kurdes dans l'appareil d'État syrien. Aujourd'hui, l'annonce de la dissolution des forces démocratiques syriennes résonne comme le point d'orgue de cette intégration, d'autant plus qu'elle prévoit également la dissolution de l'administration autonome ainsi que de toutes les structures militaires et civiles qui en dépendent et leur intégration complète dans les institutions de l'État syrien. Alors, profitant du chaos de la guerre civile, les Kurdes, on le rappelle, avaient pris le contrôle de larges parties du nord et du nord-est de la Syrie et y avaient établi une administration autonome. Formée en 2015, à l'initiative de Washington, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes constituaient l'armée de l'administration autonome kurde en Syrie. Ils avaient combattu les djihadistes de l'organisation État islamique soutenue par la coalition internationale pilotée par les États-Unis. À leur apogée, les forces démocratiques syriennes comptaient environ 100 000 combattants kurdes et arabes et contrôlaient de vastes zones du nord et du nord-est de la Syrie, des régions riche en pétrole. Mais dans la Syrie qui change, les rêves d'autonomie kurde ont été mis à mal les dernières années. Dès sa prise de pouvoir en décembre 2024, le nouveau dirigeant Ahmad al-Sharaa, qui a renversé Bachar al-Assad, s'était attelé à réunifier le pays morcelé par une longue guerre civile et à démanteler les groupes armés. L'annonce de la dissolution des forces démocratiques syriennes a reçu le soutien des États-Unis à travers la voix de Tom Barrack, l'envoyé spécial américain en Syrie, également ambassadeur en Turquie, qui a salué une décision absolument historique. Mais malgré cette dissolution, les Kurdes ne veulent pas renoncer à leur spécificité culturelle. Le chef kurde syrien Mazloum a souligné que le droit à l'enseignement en langue kurde est l'un des droits les plus importants que notre peuple kurde revendique depuis des décennies. Je cite, rappelant que Ahmad al-Sharaa avait affirmé à plusieurs reprises son engagement à préserver ce droit. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, cette dissolution va-t-elle réellement être appliquée sur le terrain?
Merci Inès pour toutes ces précisions. À Gaza, même les cerfs-volants deviennent un enjeu du cessez-le-feu. Le Conseil de paix piloté par Washington demande au Hamas de faire cesser leur lancement, tout en rappelant à Israël que toute riposte militaire doit répondre à une menace réelle et imminente. Le Hamas affirme de son côté que ces cerfs-volants sont lancés par des enfants et nient toute implication. Dans le détroit d'Ormuz, les négociations avancent, mais pas encore vers une réouverture. Oman et l'Iran discutent d'un couloir temporaire de navigation et d'opérations de déminage avant d'envisager un dispositif permanent. Mais Téhéran pose ses conditions. Pas de réouverture tant que la guerre se poursuit et que Washington ne lève pas son blocus. Le détroit stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures reste donc au cœur du bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a transmis au Congrès l'accord de coopération nucléaire civile conclu avec l'Arabie Saoudite qui permettrait l'exportation de technologies américaines vers le Royaume. Mais Washington maintient une condition politique majeure. Riyad devra normaliser ses relations avec Israël et rejoindre les accords d'Abraham. Le Congrès dispose désormais de 90 jours de session pour examiner le texte. Au-delà des contrats et des milliards d'euros annoncés, la visite à Paris de Mohammed Ben Salman illustre aussi une autre dimension du partenariat franco-saoudien, la coopération culturelle, un secteur stratégique pour Riyad qui veut faire du tourisme l'un des moteurs de sa diversification économique dans le cadre de Vision 2030. Le projet d'Al Hawla, vaste site patrimonial du nord-ouest du royaume, en est l'une des vitrines avec une forte implication française dans sa valorisation mais aussi dans la formation à l'expertise archéologique. Pourquoi la France occupe-t-elle une place aussi privilégiée dans cette transformation? Éclairage de David Rigoulet-Roz, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Dans l'ADN français, on sait que de toute façon il y a une diplomatie culturelle qui est très ancienne, hein. C'est pas une nouveauté, mais elle prend un relief particulier dans ce cas-là, notamment avec Al Hawla, puisqu'il y a un grand projet effectivement de développement c'est un peu la Petra, on va dire, saoudienne, dans le nord-ouest du pays. Et dans ce cadre-là, il y a une expertise française, une plus-value française. On l'a vu avec le Louvre, Abu Dhabi, etc. Mais on va dire qu'il y a une compétence française qui est effectivement jugée utile dans le projet Vision 2030, justement, parce que Mohammed Ben Salman veut faire du secteur du tourisme culturel. Et j'insiste là-dessus parce que jusqu'à présent, le tourisme était essentiellement un tourisme religieux lié aux villes saintes. Or, Mohammed Ben Salman veut arriver à plusieurs dizaines de millions de touristes justement non religieux. Justement. Et donc, ça passe par le développement d'un certain nombre de sites pour la valorisation, y compris de sites pré-islamiques, en l'occurrence, c'est le cas. Et là, on retrouve l'expertise française. D'ailleurs, il y a l'architecte Jean Nouvel hein, qui est partie prenante. Il y a un grand projet de développement, de formation aussi, des personnels, parce que le tourisme, c'est aussi des compétences, le produit d'une formation. Et donc là, il y a effectivement, la France a un positionnement très particulier, parce qu'on a une crédibilité qui n'est plus à prouver, et ça explique évidemment, et puis il y a une culture, une tradition archéologique française aussi, hein, bien sûr. Et donc, c'est pas un hasard si la France se retrouve au premier rang pour ce type de projet.
David Rigoulet-Roz, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, invité de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. Ce drame au Pakistan, 14 nourrissons péris dans l'incendie d'un hôpital d'Islamabad. Le feu parti du service de santé maternelle et infantile aurait été provoqué par une défaillance électrique liée à la climatisation. Le Premier ministre Shehbaz Sharif réclame une enquête et promet les mesures les plus strictes pour établir les responsabilités. En Russie, une nouvelle nuit marquée par des attaques massives de drones ukrainiens. Deux personnes, dont un adolescent de 14 ans ont été tués dans la région de Lipetsk. À Kotsovsk, un immense incendie ravagé plus de 100 000 mètres carrés d'un centre logistique du géant russe Wildberries. Moscou affirme avoir intercepté et détruit 426 drones ukrainiens dans la nuit. Nouveau tour de vis migratoire aux États-Unis. Washington se dit prêt à révoquer jusqu'à 200 000 visas de tourisme ou d'affaires détenus par des étrangers ayant ensuite demandé l'asile. La Maison-Blanche évoque la plus grande révocation de visa de l'histoire du pays, une mesure qui doit être appliquée progressivement. L'actualité en France avec d'abord à Poma, dans l'Aude, le déblayage se poursuit au surlendemain d'une tornade d'une rare violence. Sur les quelques 500 maisons du village, plus de 300 ont été endommagées et une centaine pourraient être inhabitables. Une cinquantaine de personnes ont été prises en charge et 20 hospitalisées, mais aucune ne se trouve dans un état jugé préoccupant. Les secours s'emploient désormais à sécuriser les bâtiments et à prévenir les risque d'effondrement et de pillage. Un an et demi après le cyclone Chido, Sébastien Lecornu arrive ce mercredi à Mayotte avec une priorité, accélérer une reconstruction qu'il reconnaît lui-même trop lente. Sur les 4 milliards d'euros prévus, seuls 12% des engagements votés et délégués en 2026 ont été dépensés. Une visite sous tension alors qu'une intersyndicale appelle à la grève et à manifester. Dès le plus jeune âge, donner aux enfants les moyens de parler pour mieux détecter les violences sexuelles, c'est l'objectif du gouvernement qui veut intégrer des questions sur les violences sexistes et sexuelles au questionnaire annuel sur le harcèlement scolaire. 10 millions d'élèves de la maternelle à la terminale doivent être concernés avec des questions adaptées à leur âge. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, prévient déjà les résultats pourraient être sismiques alors qu'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles en France. Pour Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est essentiel de permettre aux enfants de révéler les violences, y compris lorsqu'ils sont encore très jeunes. Elle s'exprimait ce matin chez nos confrères de France Info.
Et dès la petite section, moi aussi je suis mère d'une petite fille qui a 3 ans et demi, dès le plus jeune âge on peut expliquer, on peut dire des choses à nos enfants, de manière à garantir que si jamais il leur arrivait le pire, ou si jamais ils étaient témoins aussi, ils puissent se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment légitimes et libres à révéler. On peut dessiner, on peut expliquer, on peut ensuite écrire, on peut ensuite cocher des cases. Il y a mille et une manières évidemment de le faire et on adapte, on n'a pas la même maturité, la même capacité à 3 ans et demi et à 12 ans, sauf que justement les prédateurs sexuels, ceux qui imposent l'inceste aux enfants, abusent de la vulnérabilité de ces enfants, de leur fragilité et du fait que oui, il y a des âges selon lesquels ils ont moins accès et la capacité de dire, de révéler parce qu'ils ont moins accès à la parole.
Aurore Berger chez nos confrères de France Info ce matin. Le tissu économique français continue de se fragiliser. Plus de 33 000 chefs d'entreprise ont perdu leur activité au premier semestre, près de 7% de plus en un an. Les petites structures sont les premières touchées, mais le phénomène gagne désormais les entreprises plus importantes et l'impact dépasse les seuls dirigeants. Environ 80 000 emplois salariés auraient également été perdus dans leur sillage. Une première en France, le cancer du sein d'une hôtesse de l'air a été reconnu comme une maladie professionnelle. La justice a notamment retenu 3 facteurs liés à ses 30 années de carrière. Le travail de nuit, l'exposition au rayonnement ionisant et le tabagisme passif. Une décision qui pourrait ouvrir la voie à d'autres personnels navigants. Et puis enfin, l'Amérique perd l'une de ses plus grandes icônes. Dolly Parton s'est éteinte à 80 ans. Reine de la country, interprète de Jolene et autrice de quelques 3000 chansons, elle aura traversé 6 décennies de musique et vendu plus de 100 millions de disques. L'émotion est immense aux États-Unis. Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux pendant une semaine, tandis que les hommages affluent du monde entier, de Paul McCartney à Beyoncé et Taylor Swift. Voilà sur ces notes que prend fin cette édition. Merci à Raymond Jouan à la réalisation. Prochaine édition en langue arabe à 12h30. Ce sera avec Roger Khoury. Merci de nous suivre.